écho de politique religieuse par le père Philippe à Rimont le 19 avril 1989.
On va continuer cette recherche, cette analyse au point de vue chrétien, au point de vue de la politique. Il y a un point sur lequel je reviens à propos du bien commun. Donc, quel est le bien commun de l'Église? Puisque c'est de savoir si la foi, l'espérance et la charité, les vertus théologales, qui sont le levain qui vient transformer la pâte humaine, est-ce que ce levain transforme et comment transforme-t-il l'aspect d'une politique chrétienne? Y a-t-il une politique chrétienne? Pas de métaphysique. Il y a un art chrétien. C'est difficile de le nier, ça. Certains le nient, mais ça me semble difficile de le nier. Il y a une éthique chrétienne. Il y a une famille chrétienne, puisqu'un journal. C'est un signe, ça. Et puis, y a-t-il une politique chrétienne? Il y a des choses, mais au point de vue spéculatif, c'est assez facile. Il n'y a pas de philosophie naturelle chrétienne, il n'y a pas de mathématiques chrétiennes, il n'y a pas de traité de la vie chrétienne. Intéressant quand on essaie de voir toutes les dimensions anthropologiques de l'homme, de voir où la grâce vient transformer tout dedans, pour faire une dimension nouvelle. Alors on était arrivé à ce point de vue que c'était par le point de vue de la prudence, si vous vous souvenez bien. Il y a une prudence infuse. Il y a une prudence chrétienne. Y a-t-il une prudence politique chrétienne? Si il y a un bien commun chrétien, il y a une prudence chrétienne. Et je crois bien qu'il n'y a pas de bien commun politique chrétien. Je crois. J'aimerais que vous y réfléchissiez. Hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de littérature là-dessus. Oui, on reviendrait à Hegel. Ce serait le point de vue de la philosophie politique. Mais il n'y a pas beaucoup. Alors, le bien commun au point de vue politique, c'est la possibilité pour l'homme d'atteindre tout son développement, son bene vivere, le zen, bien vivre. C'est ça le bien commun. Arriver à un développement qui permette l'amitié, permettent la contemplation. Et l'homme politique n'est pas chargé de diriger l'amitié. Vous avez un petit pied doux de Mitterrand. Je vous connais, je vous aime beaucoup, j'ai rencontré votre âme sœur. Vous pourriez venir aux rencontres, aux Champs-Élysées, pour un repas commun, vous voyez ça. Le président de la République se chargerait de faire des amitiés, des rencontres. Platon faisait ça. Pas l'oublier, c'est pour ça que c'est pas si extraordinaire. Pour Platon, ça pouvait se faire. Il y aurait une revue particulière pour les mariages, dirigée, les fiançailles d'abord, dirigée par le président de la République. Nous sommes vraiment en présence d'un État parfait. Non. Il s'arrête au niveau de la Concordia. La concorde, la bonne entente des citoyens. Pas plus loin. Et l'amitié est quelque chose de tout à fait libre et apolitique. Au sens très fort. C'est au-delà du point de vue. Tout le problème de l'amitié envers religieuse, est-ce que c'est en dehors de la vie commune? Vous voyez les similitudes qu'on peut faire. Quel est le bien commun de l'Église? C'est le Christ dans ses membres, le corps mystique. C'est ça le bien commun d'Église. Quel bien commun de la congrégation Saint-Jean. C'est qu'il y ait des saints. Tant qu'il n'y a pas de saints, on est en dessous du niveau de la mer. On y tente, noviciat, la sainteté. Bien commun de l'Église, c'est qu'il y ait des saints, des martyrs, des religieux. Martyrs sanglants et martyrs non sanglants. À cause de ça, payer de l'argent pour qu'il y ait des bourreaux. Mais il faut qu'il y ait des martyrs. C'est le bien commun de l'Église. C'est le corps mystique. Oui.
C'est pas un bien commun propre.
Pourquoi voulez-vous qu'il ne soit pas propre?
C'est le bien commun de l'Église, c'est pas le bien commun de la communauté Saint-Jean.
Ah non, attends. Oh, je parlais de la. Du corps mystique. Et dans le corps mystique, il y a des petites communautés. Alors, est-ce que ces communautés ont un autre bien commun que celui de l'Église? Je sais pas. Il y a un petit mode particulier, mais c'est le même bien commun. Donc il y a des saints et des martyrs. Tous les jours, je prie pour qu'il y ait des martyrs dans la commune Saint-Jean. Qu'il y ait des saints, ouais. Dieu prend ses saintetés de façon ou d'une autre, mais qu'il y ait des saints, oui. Ça fait partie, hein. Qu'il y ait des saints, qu'il y ait des martyrs. Ce serait très heureux. Deuxième centenaire de la prise de la Bastille. Ça appelle du sang, ça. C'est bien évident. C'est très grand du reste, c'est très beau. Bien comme à l'Église, c'est la sainteté, ça on ne peut pas nier. Corps mystique. Bien comme à une communauté religieuse, communauté Saint-Jean, c'est la sainteté. Autrement, ça ne vaut pas la peine d'exister, quoi. On est une école de sainteté. Une école de sainteté, ça implique le martyr, et le martyr non sanglant, de la vie religieuse. C'est la sainteté. C'est le Christ dans ses membres. Présent dans ses membres. Vous voyez, c'est un bien commun surnaturel. Qui implique qui a des implications. Avec le point de vue temporel, c'est sûr, parce que la grâce est une grâce chrétienne, mais ce n'est pas la richesse, le bien commun de l'Église. Bienheureux les pauvres, ce n'est pas la richesse que l'Église doive gérer des biens, c'est sûr, à cause de toutes les institutions chrétiennes, à cause des personnes qu'elle utilise. Bien les payer. Inventer un appui particulier pour les laïcs qui viennent nous aider, vous voyez, comme les cavaliers du pape, on aurait inférences avec le point de vue temporel, mais le point de vue temporel conditionne, et c'est tout. Et de l'autre côté, on peut dire que le bien commun de la communauté politique s'arrête à l'amitié, s'arrête à la contemplation. Alors, est-il impliqué dans le bien commun les liturgies religieuses, la liturgie chrétienne? Je crois qu'on peut dire que l'aspect religieux fait partie du bien commun politique. L'État doit veiller à ce que les citoyens puissent être des êtres religieux, avec leur assemblée religieuse, avec leur liturgie religieuse. Alors ça va très loin, ce libéralisme. Je vous l'ai dit en Amérique, le raisonnement qu'on m'a donné. Le démon a le droit d'avoir son culte. Donc, on n'interdit pas les sectes sataniques. Je crois qu'on interdirait si on savait qu'il y avait des sacrifices humains. Je crois. Je ne crois pas qu'on les tolérerait. C'est pour ça qu'on les cache. On soupçonne, on se dit qu'il doit y en avoir. On ne le sait pas de façon absolue. Parce que c'est caché. Parce qu'on sait bien que je crois que l'État interdirait sacrifice d'enfants. Mais la liturgie, comme telle, est... Mais voyez, l'État intervient de l'extérieur pour permettre à des communautés religieuses d'exister. Pour l'État, la communauté chrétienne est une communauté religieuse. Puisque la foi, comme telle, est personnelle. Elle demande de s'incarner. Mais la communauté, comme communauté, c'est la communauté du corps mystique. C'est la communauté de la charité fraternelle. C'est un mystère qui dépasse le point de vue religieux. Mais ce mystère, en s'incarnant, assume le point de vue religieux. Et par ce point de vue religieux, il est sous le contrôle de l'État. S'il y avait des orgies le jour de Noël à 1h du matin en sortant de l'église avec un vacarme invraisemblable, l'État aurait le droit d'intervenir. Pour mettre un peu de calme, un peu de piété, quoi. L'État aurait le droit d'intervenir avec le goupillon et l'eau bénite pour calmer tous les petits diables. Autrement, si tout est calme et paisible, l'État n'a rien à dire. Il faut respecter la vie religieuse. Quand l'État ne respecte pas les rassemblements religieux, l'État usurpe. Il n'a plus le droit d'être obéi. Vous voyez, je prends ces cas-là, c'est intéressant. Ces rassemblements qui se font en Amérique contre l'avortement, qui font que les gens se mettent devant les portes des cliniques pour empêcher les médecins d'entrer, pour empêcher les personnes qui voudraient entrer. Pénétrer. Donc ils sont couchés. Est-ce que l'État a le droit d'intervenir ou pas? Est-ce que l'État, dans la police, quand elle intervient et qu'elle va conduire ces gens en prison pour une journée ou deux journées, est-ce que l'État usurpe ou est-ce que l'État usurpe d'agir par violence? Assez doucement quand même. sont devant des gens non-violents. Donc ils répondent par la non-violence, tout en portant ces corps inertes, endormis, en prison. Est-ce que l'État a le droit de faire ça, ou est-ce que l'État usurpe? Vous voyez, c'est l'aspect religieux. C'est l'aspect humain qui intervient, c'est pas le point de vue chrétien. Si l'État n'observait pas tel ou tel dogme, ce serait différent. Et là, il s'agit de la vie humaine et du respect vis-à-vis de la vie humaine. Et il s'agit d'un attentat. Alors, l'homme n'a pas le droit d'être complice. Et on a trouvé là un moyen très astucieux. C'est plus facile que par les finances, oui, par les impôts. C'est plus massif. C'est une manifestation. Je crois que l'État devrait faire un examen de conscience en se demandant si ses lois sont encore humaines et religieuses. Parce que ça oblige l'État de faire cet examen de conscience. Et à ce point de vue-là, c'est d'une manière très, très louable de s'opposer et de montrer qu'on n'est pas d'accord, sans aucune violence. Vous voyez, si c'est ainsi dans cela, il faut vous poser souvent les questions quand on voit ces choses-là, parce que ce sont des faits. Les gens vous demandent conseil. Et vous répondre d'une façon qui soit juste, objectivement juste, qui soit vraie. Alors, vous voyez, l'homme religieux, avec tout ce qui est exigé par sa vie religieuse, l'État doit le respecter. Or, la foi chrétienne informe, ainsi que la charité, la vertu de religion. Alors, sous cet aspect-là, il y a une incidence par rapport à la foi chrétienne. En tant que l'Église est une communauté religieuse, en tant qu'une communauté de moines est une communauté religieuse, par ses exigences propres. Et voyez que le bien commun n'est pas spécifiquement chrétien. Il est humain et religieux. Et il n'est pas spécifiquement chrétien. Je crois. Il n'y a pas de loi spécifiquement chrétienne. Il y a des lois spécifiquement religieuses. Je crois que c'est la distinction qu'on doit faire. Si vous lisez du reste, hein, voilà, à titre topique, si vous lisez l'Ancien Testament, la première alliance, vous êtes frappé de voir que l'État d'Israël est un État religieux. Est-ce qu'on peut dire que c'est un État croyant? Il y a révélation, il y a foi. Mais qu'est-ce qui détermine le point de vue politique, c'est de ne rien dire qu'il soit contraire explicitement au décalogue. Parce que tout ce qui est dit dans le décalogue relève d'une morale religieuse et non pas de la foi. Et on pourrait se demander, lorsque Dieu y avait, Dieu des armées, demande de passer au fil de l'épée tous ceux qui sont les ennemis d'Israël. Est-ce que c'est un commandement qui provient de la foi ou de la religion? Ou de la passion? On doit se poser la question. Il ne faut pas y répondre trop vite. Parce que ça a beaucoup de conséquences, vous voyez. Même si instinctivement on est porté à dire c'est impossible. C'est en raison des mœurs du temps. Il y a beaucoup de choses qui sont comme ça en raison des mœurs du temps. Qui ne relèvent pas directement de la foi, de la parole de Dieu. Cependant, continuez, l'Église continue de nous le dire, de le lire, et de chanter les psaumes avec ça. Ça, vrai. Ça revient de temps en temps. Et on revient. Et on sent qu'à ce moment-là, les chantres, ils mettent un gros coup. Pour que les murs de Jéricho dégringolent. Et c'est des questions qui se posent. Pour savoir le rapport de l'éthique, de la politique, et le point de vue religieux, et le point de vue de la foi. Et c'est pas commun d'y répondre. Vous avez dit répondre de façon purement positive, ça c'est très facile. C'est très simple. Mœurs du temps. Alors que ce n'est pas tout à fait ça. Il y a plus. Il y a des intentions. Il y a des intentions de Dieu. Il y avait chef des armées, roi des armées. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je crois que ça ne peut pas s'expliquer uniquement d'un point de vue religieux. Parce que ce serait un fanatisme. Quand on demande de supprimer au nom de la religion tous ceux qui sont à côté parce qu'ils sont en opposition vis-à-vis des puits pour les troupeaux, il n'y a pas de proportion entre les deux. Le temporel d'un côté et la vie humaine de l'autre. Je crois que ça ne peut pas s'expliquer uniquement d'un point de vue religieux. Il faut faire appel à la foi et l'espérance qui conduit le peuple d'Israël. Alors à ce moment-là, ça peut se comprendre d'une manière... toujours très respectueuse. C'est-à-dire, ça peut se comprendre, on peut voir qu'il n'y a pas de contradiction. C'est déjà pas mal. On ne les comprend pas. Et ça peut se comprendre du fait que le peuple d'Israël est conduit par l'Esprit Saint pour être préfiguratif du mystère de l'Église. Vous voyez, il y a une question de symbole. Le lien entre la foi et la vie religieuse font naître des symboles. Ça, c'est sûr. Et explique des symboles. Donc, vous voyez que c'est très délicat de bien comprendre toujours cette relation de la foi et l'intelligence pratique prudentielle. Car Je crois que tout ça conduit à bien nous faire comprendre qu'il n'y a pas, au sens strict, de prudence politique et chrétienne.
C'est au niveau chrétien ou au niveau religieux ?
Le droit canon n'est pas au niveau politique humaine.
Mais est-ce qu'il est vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifiquement chrétien dans le droit canon ?
Ah oui, oui. Regardez ce qu'il dit sur le mariage. Il avait quand même dans la lumière des sacrements. C'est l'Église sur la terre, dans son pèlerinage, côtoyant des politiques non chrétiennes et chrétiennes. Non chrétiennes. Des États chrétiens, des chrétiens. Le droit canon, c'est pour le chrétien dans le monde. C'est pour le chrétien vivant une vie communautaire religieuse. Mais je crois que c'est quand même spécifiquement chrétien s'incarnant dans la communauté religieuse.
Le bien commun, normalement, doit nous permettre d'atteindre notre finalité personnelle.
Oui, oui, tout à fait.
S'il y a une nouvelle finalité personnelle pour le chrétien, est-ce qu'il n'y a pas une modalité particulière du bien commun?
Il y a une modalité.
Qui permet cette finalité de s'épanouir?
Il y a une modalité, mais pas plus. Pas une spécification. Parce que ce bien commun est atteint par la foi, n'est pas atteint par la prudence. C'est le Christ.
Le chef d'État, s'il n'est pas chrétien, comment peut-il sentir quel est le bien commun qui va disposer, qui va permettre cette finalité de s'épanouir chez les chrétiens?
Mais il le sait par des faits. Les chrétiens le disent. C'est dans ça qu'il y a une éthique chrétienne, au plan philosophique. Un chef d'État, qui soit un vrai chef d'État, doit comprendre l'éthique humaine, l'éthique religieuse, l'éthique chrétienne, l'éthique musulmane, et ainsi de suite. Et il doit savoir ce qu'il y a de particulier chez un chrétien, comme exigence. Oui. Mais il ne peut pas donner des lois chrétiennes. En disant, je donne ces lois pour tous les chrétiens de mon diocèse. Il prendrait la place de l'évêque. Le chef d'État ne peut pas. Donc, il me semble qu'on peut dire ça, hein, jusque maintenant. Je ne dirai pas plus. Si vraiment vous avez des questions, vous les posez. Oui.
Est-ce que le rôle d'un chef d'État chrétien, ce ne serait pas de créer un lieu favorable, justement, à l'épanouissement de...
De créer des petites réunions de prière.
Non, pas comme ça.
Quoi ? En tant que chrétien, oui, mais pas en tant que président de la République. Oui, un chrétien qui est à la tête d'un pays, il reste un chrétien. Et il est plus chrétien que chef d'État, plus profondément. Et donc, il a toutes les possibilités de développer son apostolat de laïque. C'est un grand laïque. Il y a toutes les possibilités de le développer. Parce qu'il a plus de possibilités qu'un autre. Mais ce n'est pas ça qui fait que c'est une politique chrétienne. C'est en tant que chrétien, en tant qu'homme.
Il va créer des conditions matérielles qui vont permettre un développement de l'aspect chrétien.
Oui, sûrement. Ah, est-ce qu'il fait ça en tant que chef d'État? Non. Négativement, mais pas positivement. Il ne fait rien qui empêche le développement chrétien. Mais fait-il positivement? Alors, Oui et non. Développer le point de vue humain, c'est développer le point de vue chrétien. Alors, d'accord avec vous. Mais si ce n'est pas le point de vue humain, on ne peut pas.
Est-ce qu'on peut dire que c'est cette absence de, d'influence directe de biens communs chrétiens qui font justement la, ce que le Vatican II a dit sur la liberté religieuse.
Sur la liberté de...
religieuse.
Vatican II dit sur la liberté religieuse, c'est beaucoup plus par rapport au chef d'État. Oui, qu'il doit respecter la liberté religieuse, c'est sûr. Que tout citoyen a sa liberté religieuse.
Et en même temps de montrer que le point de vue chrétien ne peut pas s'imposer du fait qu'on n'a pas de...
Exactement. Vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un de devenir chrétien. Et vous n'avez pas le droit de dire, si vous êtes chrétien, payez-moi un impôt.
Dans l'histoire, il y a eu Saint Vladimir ou Clovis. Et puis tout le monde a suivi derrière. Enfin, beaucoup. Comment on peut appeler ça?
Des conversions. Des conversions. Des conversions personnelles.
Et en même temps, un certain acte politique.
Il y a un certain acte politique, sûrement, parce qu'au fond, on est devant une politique qui est encore très proche d'un aspect familial. Vous voyez ? Ça, c'est sûr que la politique d'aujourd'hui est quand même très différente de la politique d'un Clovis. Un point de vue féodal, point de vue royal, fait que la politique est beaucoup plus proche de la famille. Et regardez en Belgique, très intéressante dans son Belgique. Le roi est profondément chrétien, à la manière de Saint-Louis. Il ne peut pas agir du tout comme Saint-Louis. Et vous lui ferez le reproche? Non. Parce que de fait, les distinctions au point de vue politique sont beaucoup plus nettes qu'avant. Et on ne peut plus faire la même chose. Et philosophiquement, on comprend. C'est un peu le logos philosophique, vous voyez, qui s'empare de tout un domaine qui avant était moins défini, moins précis. Avant, il y avait le panache chrétien qui jouait énormément. Ce que disait un officier de la Légion étrangère. Quand l'officier est catholique, tous les hommes sont catholiques derrière lui. Il va à la messe le dimanche, tous les hommes sont derrière lui à la messe. Mais vous ne voyez pas ça dans l'autre, dans d'autres parties de l'armée. Mais ça existe encore maintenant. On m'a dit ça il y a 10 ans. Alors. C'était un officier que je connaissais bien, qui était dans la Légion étrangère. Et c'est vrai que ça existe comme ça. Et vous voyez, j'allais dire, je suis persuadé qu'un président de la République soit profondément chrétien et catholique dans son petit village, ça joue le même rôle. À Paris, beaucoup moins. Toujours un peu. Alors ça, c'est le prestige personnel. C'est la cause exemplaire personnelle qui joue ce rôle. Mais ce n'est pas formel. Bon. On va continuer. Il y avait une autre question qui se posait. Donc, ça, c'est pour bien montrer que le bien commun ne peut pas être baptisé. Bien commun politique. C'est les individus qui sont baptisés. par les individus, les communautés. Au niveau moral, au niveau amitié, au niveau politique, pas directement. Il me semble. Si vous voyez un métaxu qui dit autre chose, un argument qui dit autre chose, vous me direz. Parce que c'est un problème très difficile. Mais je crois qu'il est bon de le dire. Et quand vous êtes en face de la sacrée droite, et vous diriez ça, il serait scandalisé. Mais littéralement scandalisé. Je le fais de temps en temps. Parce que de temps en temps, le scandale est bon. Et il serait scandalisé, je vous affirme. Alors, tout de suite, oh, Monseigneur Lefebvre ne dit pas ça. Je dis, oui, Monseigneur Lefebvre manque de philosophie. C'est vrai, s'il n'avait plus de philosophie, il y a des tas de choses qu'il ne dirait pas. Parce qu'on fait des blocages, on projette la famille sur l'État. Oui. Il y a une famille chrétienne, c'est bien évident qu'il y a une famille chrétienne. Il y a un sacrement. La famille est le sacre des rois. Hein? Le fameux sacre des rois. Reims. Alors qu'est-ce que ça correspond? Je crois que ça correspond à la demande pour un roi très chrétien de demander la grâce de Dieu pour tout ce qu'il va faire et pour son pays. Et ça ne veut pas dire que la politique sera chrétienne. S'il est très intelligent, sa politique sera intelligente. S'il est très intelligent et qu'il est croyant, il y aura les deux. Et vous avez quelquefois des chrétiens qui sont qui ont l'autorité politique et qui font des bêtises énormes au point de vue chrétien. Et au point de vue politique. Alors vous voyez, c'est là où se me poserait la question, y a-t-il une liberté chrétienne politique? S'il n'y a pas de prudence spécifiquement politique, politique chrétienne, il n'y a pas de liberté politique chrétienne. Il y a une liberté religieuse. Comme il y a une politique religieuse. Vous voyez? Et je crois que très souvent, il y a une confusion entre ce point de vue religieux et le point de vue de la foi. Dans la sacrée droite, c'est ce qui arrive très souvent. Ils font une confusion entre le point de vue de religieux et le point de vue chrétien. C'est ça qui a fait des dégâts terribles dans certaines familles traditionnellement chrétiennes. Parce qu'on bloquait famille avec des mœurs morale, et puis foi. Toujours rappeler que la foi est personnelle. C'est pas parce que les parents se sont mariés à l'église que les enfants naissent avec le baptême. Non. Il faut baptiser chaque enfant. Et si on baptise chaque enfant, c'est pour bien montrer que c'est quelque chose de tout à fait individuel et personnel. Mais c'est ce caractère personnel chrétien auquel je crois. Tout ce que nous vivons aujourd'hui nous oblige de le voir avec une très grande rectitude. Alors qu'avant, c'était un peu bloqué au début du siècle. Ça c'est sûr. Et c'est dans un instant qu'on dit qu'il ne peut pas y avoir de loi chrétienne. Quels étaient? Il y avait encore des sujets qu'on devait traiter. Non.
Gouvernement dans l'Église, la prudence à l'intérieur de l'Église.
On me rappellera ça la fois prochaine. On y réfléchira. C'est connu, hein, c'est des choses. Les relations entre l'Église et l'État, c'est ça.
Et puis le gouvernement, la prudence ou l'action de...
Oui. Pour voir la différence, réfléchissez là-dessus. Pour voir la différence entre la vertu de prudence informée par la charité sous la mouvance du don de conseil et le charisme du gouvernement. Vous savez bien que parmi les charismes, le dernier charisme, le plus petit charisme, c'est le charisme du gouvernement. Tandis que le premier charisme, c'est le charisme sermo sapientiae. Et entre les deux, c'est du reste intéressant dans toute la gamme des charismes. Alors, est-ce que celui qui gouverne reçoit-il le charisme de gouvernement ou est-ce que c'est suffisant le don de conseil? Et qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir? Qu'est-ce qu'on doit demander ?